Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Michel Rosier, bonjour.
Bonjour.
Ça a été presque une thématique cette semaine. On a été faire une petite visite guidée du côté de Broca avec la visite du musée des forges de Broca. Mmh. Fer forgé, métal, bronze, tableau en fer, c'est votre univers artistique, Michel Rosier. Cet été, on a décidé comme ça d'accompagner les musiciens, les artistes qui peut-être en cette période un tantinet tourmentée, on va peut-être en discuter avec vous, organisent des événements. Ce sera le cas à Montau, Michel Rosier, dont vous êtes, c'est votre nid, Montau.
Ah, c'est là où j'habite, hein, ouais. Et puis j'ai mon atelier qui est là. Et aussi à Montau, il y a d'autres manifestations ouais. artistiques. On a un petit village où vraiment on se débrouille très bien, point de vue artistique. C'est vrai.
Depuis quelques années, je crois qu'on suit particulièrement les incartades ouais. avec très vite là. Ça va arriver, je crois que.
Ah, ça arrive le 15 ouais. Où j'étais le président pendant que 8 ans. Hein, on a fondé ça. Bon, je me suis dégagé un peu parce place aux autres hein, aussi quand même. Mmh. Et puis cette année, malheureusement, avec la crise. Toutes les expositions ont explosé, il n'y a plus rien qui se passe. Donc je me suis dit, plutôt que d'avoir mes œuvres dans le grenier, autant ouvrir l'atelier.
Ouais, et proposer au public de venir visiter tout ça.
De venir visiter, montrer mes œuvres au public.
Alors ça, sans vous faire outrage, je sens que l'accent n'est pas gascon, Michel Rosier.
Non, j'ai... Je suis né à Bordeaux, j'ai jamais vécu à Bordeaux. J'ai mes 4 premières années dans les Landes, à Escourse. Et ensuite, mon père qui était ébéniste est monté à Paris pour travailler sur quelque chose de plus intéressant que le pelage des pins. Et j'ai vécu donc toute ma jeunesse à Paris, jusqu'à 22 ans, où à 22 ans, je suis parti en Australie, où j'ai vécu 15 ans en Australie. J'ai même pris la nationalité australienne, parce qu'à un moment, on pensait rester là-bas. Mm-hmm. Et puis...
Donc, vous fûtes Michel Rosier, ou quelque chose comme ça, Michael Rosier.
Pardon ?
Vous avez été Michael Rosier, alors,
c'était non, pas... Non, là-bas, j'ai été... Alors, Michel est mon prénom de baptême, ouais, on m'appelle ouais, Michel ici, ouais. Mais mon prénom d'état civil, c'est George, donc là-bas, j'étais George Rosier.
George Rosier, l'accent voilà. australien, d'accord.
Ouais. Et pendant 15 ans, je m'y suis habitué. Pourquoi ? Tout simplement, quand je suis arrivé, je parlais pas un mot d'anglais, mm-hmm. parce que je comprenais pas que l'Australie ne soit pas française. À 15 jours près, la Pérouse aurait pu le prendre, hein, par rapport au capitaine Cook. Mm-hmm. Et ce qui fait que j'ai appris l'anglais sur place, en travaillant dans les ateliers, que ce soit construction métallique, soudure et tout ça. Et je me suis dit, je peux pas expliquer pour quelle raison je m'appelle, mon prénom de baptême, pour moi c'était trop dur, je n'arrivais mm-hmm. pas, je connaissais un mot en anglais. Mm-hmm. J'ai dit, appelez-moi Georges et puis ça ira comme ça. Donc, monsieur. Mais quand je suis revenu en France, mon prénom de baptême est revenu tout de suite sur le Michel et puis c'est resté. Quoi.
Et alors le retour de Michel Rosier en France
Alors le retour, c'était à un moment, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire, parce que moi j'aime pas, quand il y a trop de sécurité, je ne suis pas bien. Donc j'avais besoin et je voulais faire, j'ai toujours voulu faire de la sculpture, ça c'est certain. Mais d'abord, profiter de mon corps et de ma jeunesse, donc prendre ma retraite à 20 ans plutôt qu'à 65 ans, ou peut-être on y arrive ou pas. Mmh. Et donc, je suis rentré vraiment à un moment de ma vie, je me dis, je veux faire de la sculpture, je veux faire de la ferronnerie d'art réellement, et il n'y a qu'en Europe que je le ressens. Donc on est rentré sur la France, j'ai jamais regretté de rentrer à ce moment-là. Mmh.
Vous êtes passé par où, au retour ?
On a acheté une vieille maison dans la Haute-Lande,
d'accord.
à Trinsac, dans un quartier, et puis il y avait une vieille grange, j'ai fait mon atelier là. C'était peut-être pas le meilleur endroit pour faire de la ferronnerie d'art, parce que c'est plutôt le bois, les Landes, c'est pas tellement réputé pour ça. Mais moi, ça me gênait pas, j'ai allé en avant la musique. Puis de toute façon, quand on veut faire de la ferronnerie d'art, il faut savoir travailler aussi bien à Toulouse qu'ailleurs, qu'à Bordeaux, et ainsi de suite. Donc on n'est pas fixe dans un point. Hein. La création pour des gens, les gens n'habitent pas à Trinsac hein, systématiquement. Hein. Donc voilà. Mais j'ai réussi à en vivre difficilement au début, mais tout doucement. Parce qu'il a fallu que j'oublie 15 ans de mentalité australienne pour me remettre dans la mentalité française, qui n'est pas toujours évidente au début. Mais maintenant, ça va, c'est bon, il n'y a aucun souci.
Alors, ce rapport à la ferronnerie, alors, le père un peu ébéniste, ça fait pas un peu ouais. ébéniste, le rapport artisanal
Le père était ébéniste, et dans le fond, j'aurais dû peut-être prendre une voie du bois, mais la poussière du bois dans un atelier me gêne énormément. Donc j'ai dit, ça, c'est pas bon. Et aussi un rapport avec la matière. Quand on choisit, quelque part, un métier manuel, c'est, on a un rapport avec la matière, que ça soit la terre, que ça soit le bois, que ça soit le fer. Le fer, ça m'allait bien, il faut se battre avec. Donc, il faut être avoir un peu de hargne, rentrer dans la matière, la transformer à chaud et tout ça. Là, ça m'allait bien. Là, je dois dire que c'était, j'étais dans mon élément. Je vois, pour avoir un tout petit peu travaillé la terre ou le bois, je sais le travailler, avoir vu mon père tellement travailler que j'en ai une connaissance. C'est trop doux pour moi. C'est... il n'y a pas assez, il faut pas s'investir pareil. Je reconnais que c'est des métiers différents et que c'est très bien, hein, mais le fer me va mieux.
Il y a un petit côté combat.
Ouais. Alors, en vieillissant, je suis venu au bronze parce que là, c'est pareil. C'est la tranquillité, le bronze. Vous faites un travail sur de la cire d'abeille, hein. On prend de la cire d'abeille avec un peu de colophane et clac. Et après, on sculpte. Alors là, c'est peinard, il n'y a pas de bruit. On n'est pas fatigué le soir. On s'est pas battu avec le fer. Et là, après, ce n'est que de la technique, fondre du cuivre et de l'étain, couler à la place. C'est tranquille, le bronze, comparé au fer forgé, où là, il faut vraiment se battre avec la matière.
Un petit côté physique aussi, forcément.
Côté physique, il y a aussi un côté... je parle avec mes ancêtres, là, d'un seul coup, hein, les premiers métallurgistes, parce que je forge comme eux. Les gestes, quand je les fais mal, et ben eux faisaient des mauvais gestes. Et ben ils se disaient, ah, t'as pas réussi. Ben là, c'est mon dialogue que j'ai avec mes ancêtres, à ce moment-là. Comme au début, que je suis arrivé à Montaut, j'ai toujours voulu un hommage à mes ancêtres de la préhistoire. Pourquoi les ancêtres de la préhistoire? Ceux qui ont vécu, pour moi, il y a environ 10 000 ans, c'était le summum de l'humanité. On était encore en osmose, il y avait peu d'hommes sur Terre, enfin peu d'humains, et on était en osmose avec notre environnement. On vivait de notre environnement, on ne voulait pas le dominer encore. Et là, après, le néolithique est arrivé, et là, les ennuis ont commencé. Là, hein. On a commencé à se rassembler, à commencer à dire « cette terre m'appartient parce que j'y fais pousser du blé ». Donc les autres, vous partez, et les guerres ont démarré avec ça. Mmh. Je me tiens au courant de ce que les archéologues peuvent trouver, et ainsi de suite. Par contre... Eh ben voilà, je suis le descendant des premiers mauvais hommes. Mmh. On a créé le fer, on a créé le bronze, on a créé aussi d'abord les outils pour travailler la terre. Les haches étaient plus pour couper le bois, les haches en bronze ont une amélioration par rapport à la pierre. Mais sincèrement, on a vite détourné la hache en instrument de guerre... Peut-être pour se défendre, parce que l'évolution de l'humanité, c'est pas faite partout pareil. Il y avait encore des chasseurs-cueilleurs et il y avait des agriculteurs. Le chasseur-cueilleur, lui, il voyait du blé, il devait dire « Oh, je partage !» Et l'autre, il devait dire « Non, 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 mon gars, ça c'est pour moi !» Et les guerres ont commencé, enfin, les conflits ont commencé comme ça, à mon avis.
Donc il y a tout ce décor que vous avez en tête.
C'est ma tête, c'est mon histoire. Quand je fais de la sculpture, j'ai toujours ça dans ma tête. Je fais pas de la sculpture juste pour faire une forme. Mm-hmm. Ça raconte, je fais des totems parce que, naturellement, je me suis dit, bon, ok, on va faire de la recherche. Je me suis fait de la recherche. À l'époque, c'était la spiritualité, parce que l'homme a toujours une spiritualité. C'était plutôt le chamanisme, le rapport avec les ancêtres. Et alors moi, je suis pas chaman, je suis pas croyant, je suis pas gourou, hein, croyant. Pas ça, mais à quelque part, pour me créer une histoire et créer des totems qui peuvent avoir été faits à l'époque, comme je dis, je fais des copies de totems qui n'ont pas encore été trouvés par les archéologues. Donc je fais ces copies-là, j'essaye de me mettre dans la peau d'un de mes ancêtres et j'essaye de forger comme eux forgeaient, c'est-à-dire pas de soudure à l'arc, pas de soudure, pas de choses comme ça, de manière à me rapprocher le plus possible de leur méthode. Alors forcément, moi j'ai l'électricité pour le ventilateur, je n'ai plus à des gamins qui soufflent dans des pots de chèvre, c'est un fait. Hein. Mais à part ça, bon, j'essaye d'être le plus près possible de ce que faisaient mes ancêtres.
Et sur le moment de l'activité de la création, est-ce que vous avez le sentiment de cet état d'esprit un peu de conscience modifiée ou autre dont vous parlez ?
Mes dernières sculptures sont des livres. Alors, ces livres-là, ce sont des plaques d'acier auxquelles j'imprime des motifs que je crée moi-même. Comme je dis toujours, je fais que des copies du premier livre qui a été fait par le premier chaman et le premier forgeron, qui sont venus me voir à l'atelier. Ils ont 6000 ans. Et en discutant, je me suis dit, dans le fond, comme les archéologues n'ont pas encore trouvé ces livres-là, je vais en faire une copie. Donc, je fais des copies de ces livres-là. Alors, les livres en fer, je me suis aperçu, à 3 volets ou à 2, sont un peu lourds. Donc, j'ai fait les livres portables. C'est-à-dire que j'imprime les caractères que j'imprime dans le fer, je les fais après en céramique, des petites tablettes qui reprennent exactement le motif, mais en relief et non plus en creux. Et je fais des petits trous dans mes trucs, je les cuis au feu, et ensuite de quoi, je les couds sur du tissu, des vieux tissus africains que j'ai, et je fais des livres qui peuvent se rouler comme ça, et des livres portables qui sont beaucoup plus faciles à faire, à trimballer. Bon, voilà, c'est, je m'amuse à délirer par rapport à ce qu'aurait pu... Alors, ceux-là, on ne va pas trop les retrouver, parce que le tissu, il y a belle lurette qui l'est foutu. Les plaquettes, oui, dans le fond, on peut trouver ça encore, ouais.
Michel Rosier, invité de Radio MDM, à partir du 8 juillet, donc, et jusqu'au
13 septembre.
13 septembre, une grande partie de l'été à venir.
Voilà.
On aura la possibilité de venir vous voir dans votre atelier à Montaut, avec ce côté aussi, donc, contextualisation, explication de votre rapport à la matière, à l'art, comme vous venez de le faire.
Bien sûr, j'ouvre l'atelier parce que tout s'arrête, hein, pour nous, hein, il y a eu tout s'est arrêté, donc je dis, je vais ouvrir. Donc, l'atelier, là, j'ai fini de le nettoyer. Il était dans un état un peu lamentable. Et donc, je l'ai nettoyé et les trois quarts ou la moitié de l'atelier est transformé en galerie, si vous voulez. C'est pas vraiment une galerie, mais j'expose mes œuvres, une partie du garage aussi. Et j'ai toujours la partie forge, parce que je vais travailler pendant l'été. Donc, il y aura toujours cette partie-là qui est en activité. Maintenant, je ne vais pas faire de la démonstration. Si les gens viennent... et je suis au travail, ben, ils pourront me regarder, ça me dérange pas, hein, ou je pourrais leur expliquer plus facilement mon travail, et ainsi de suite. Mais je ne vais pas faire de la démonstration et tout ça, non, non, place aux jeunes pour ça.
C'est la première fois que vous ouvrez votre atelier ?
Ah ça, oui, oui. On a déjà ouvert l'atelier au cours des incartades, les années fut avant, où on faisait des repas et des concerts dans l'atelier, mais c'est le seul truc qu'on a fait, quoi, vraiment.
Et là, c'était un moment, on va venir dans votre intimité.
Oui, coup, ah ben là vous rentrez, je vais pas faire exposition dans la maison restera fermée, peut-être dû aussi au coronavirus, on va faire attention à ça, mais ben voilà, on rentre dans mon atelier, on pourra voir le lieu où je travaille, ça c'est vrai.
Et l'occasion pour vous de garder le lien et de s'inventer une nouvelle activité.
Et puis c'est toujours important de... C'est toujours important de parler avec les gens, on le voit. Quand on expose dans une galerie d'art, dans le fond, on n'a pas le contact avec les gens, sauf le jour du vernissage. Tandis que là, bah, des gens, on peut se dire, tiens, oui, ils apprécient ou ils apprécient pas, quoi, c'est tout. Voilà.
J'avais la question, comme il y a beaucoup de monde qui est en train de suivre le Maïs Chapé, oui, quand même bon anniversaire, Michel Rosier.
Hein. Merci.
Il se trouve que, voilà.
C'est aujourd'hui, oui.
Il n'y a pas de hasard, hein, Michel Rosier, dans notre rencontre. J'aimerais bien connaître votre... Comment est-ce que vous avez vécu cette crise, cette pandémie, et tout ce qui s'en est suivi?
Alors, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ouais, je suis seul dans mon atelier. Là, j'étais seul dans mon atelier. À part le fait que, quand on allait faire les courses, on nettoyait un peu tout. Autrement, il n'y a aucun souci avec... moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Moi.
Sur le décor, un petit peu de tout ça, vous y mettez quelque chose, vous y mettez une signification dans tout ça.
La nature, tu nous rappelles alors ?
Ouais.
On oublie toujours que la nature, on pense la maîtriser. Non, non, on ne la maîtrise pas. Regardez une friche industrielle, on se plaint, mais 20 ans après, il y a les arbres au milieu, il y a l'herbe qui repousse. Si on prend, mettons, Tchernobyl, il y a des bandes de loups qui sont venues à Tchernobyl. La nature reprend ses droits complètement. Et là, c'est un virus qui a muté. Il y en aura un autre. C'est marrant parce que 2 mois avant la crise, je parlais avec des amis et qui me disaient « Oui, il va y avoir une révolution, on est parti. » Je dis non. La révolution, elle viendra d'une toute petite bête, d'un petit virus. Je ne pensais pas avoir raison, si vous voulez, sincèrement. Hein. Et puis, moi, je trouve que on est un peu trop sur Terre. L'humanité, c'est la pire des espèces qu'on a sur cette planète et qu'il serait temps qu'elle disparaisse.
Votre côté chamanique, peut-être.
Pas que ça, mais on a eu un équilibre. C'est pour ça que je rends hommage à mes ancêtres de la prison. On a eu un équilibre à un moment. Il y avait un équilibre. On faisait partie de ça. Et maintenant, on a complètement tout déséquilibré, l'homme. Et plus ça va, plus on déséquilibre. Forcément, avec un discours comme je tiens, j'ai jamais fait un enfant. Il n'est pas question que j'admette un pollueur de plus sur la Terre. Pas question. Donc, je suis en cohérence avec moi. Je l'impose à personne d'autre. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent des enfants, c'est leur truc. Hein. Ça, c'est un problème. Mais en un siècle, on a pris pratiquement 6 milliards d'humains. Imaginez, moi, je ne veux même pas imaginer la Terre dans 100 ans. Ça m'intéresse pas.
Si on revient à votre travail, comment vous organisez votre travail? C'est de la rigueur, de la quotidienneté, ou c'est plus suivant l'envie?
La seule rigueur, c'est de me faire le mieux possible, le plus propre possible, de garder une rigueur dans le travail, dans ce que je fais. Quand je fais, de moins en moins, mais quand je faisais des grands travaux, mon dernier grand travail, ça a été la création pour l'abbaye de Mélisse, pour les moines, leur hôtel. J'ai fait leur hôtel, j'ai créé l'hôtel, j'ai créé l'ambon, le porte-cierge et tout ça. C'est d'être en harmonie avec eux, ce qu'ils veulent, bien comprendre ce qu'eux veulent, et aussi amener quelque chose qui va aller avec le milieu. Moi, je suis pas du tout croyant, mais ça fait rien. Quand on crée quelque chose pour quelqu'un, on rentre dans sa tête, si on peut. Alors là, il y avait 21 moines à rentrer dans la tête et leur créer le truc. Ça, c'est les grandes... Alors là, il y a une rigueur, bien sûr. On se tient quand même à des heures, parce que sinon, on n'arrivera jamais à finir la commande. Après, quand je fais un travail personnel de sculpture ou de tableau... Là, c'est pas pareil. Je peux faire aussi bien d'un seul coup 6 heures d'affilée ou 8 heures d'affilée. Je me mets dedans, je me concentre. Et puis le lendemain, je vais faire autre chose. Je vais planter des choux.
Voilà. L'intensité du moment que vous consacrez à votre travail.
C'est marrant parce que ça fait maintenant 20 ou 30 ans que je suis dans un milieu artistique. J'ai d'autres amis artistes, naturellement. Ouais. J'ai jamais vu des gens travailler autant que les artistes. Alors, on a toujours l'impression que l'artiste, il rêvasse, et c'est normal. Moi, je trouve que c'est bien. J'appelle ça glander. Alors, on fait rien. Mais en réalité, dans la tête, on est en train d'emmagasiner des choses. Et là, d'un seul coup, après, il y a un travail qui se fait, ça coule, c'est parti. Et j'ai jamais vu des gens autant bosser, hein. Incroyable. C'est pas 35 heures ou c'est même pas 80 heures. En permanence,
c'est du permanent,
le travail.
J'en ai récemment, hier, je crois que c'était sur France Culture, comme ça, un artiste, je me souviens plus qui c'était, qui parlait justement du côté, on fait que ça, quoi. On fait pratiquement que ça, tout le temps.
Bien sûr.
C'est une obsession.
Et puis même, en conduisant, on a les idées qui arrivent, on les construit dans la tête à ce moment-là. Moi, je peux pas aller dans l'atelier si j'ai pas dans ma tête quelque chose de terminé. Sauf pour mes tableaux qui sont des réactions chimiques. Là, il y a un travail de la nature qui fait que la réaction, elle se termine avec du vert ou avec du gris. Je n'ai pas toujours la maîtrise exacte de ce que je fais, là. Mais j'aime bien ce côté un petit peu où la nature fait aussi son travail, quelque part.
Et puisque dans votre tête, tout ça, il y a une sorte de turbulence. Vous arrivez à avoir un contact comme ça avec les personnes autour de vous, oui, très normal. Dans votre entourage, ça va, on n'a pas de problèmes sociaux,
Non, pas du tout.
De communication ou autre.
Moi, je suis depuis 45 ans avec ma femme.
Oui.
Et comme je dis toujours, je ne l'ai jamais trompé. je construis une vie comme ça. M'emmerder avec une maîtresse, vous imaginez un peu. En plus de ce que l'on a déjà dans la tête, ça serait trop. Non, il faut avoir du temps libre pour avoir une maîtresse.
Alors, à partir du 8 juillet, dans l'atelier de Michel Arrosier à Montaut, on peut vous donner le renseignement, comment faire pour venir vous voir.
Je suis sur la place des Tilleuls. On a distribué des affiches et des flyers un peu partout, mais sur la place des Tilleuls, à 20 mètres à droite du centre culturel, il y a ma maison. Enfin, il y aura un petit truc qui montrera où est-ce que c'est.
Visuel.
Les gens viennent de 15h à 19h l'après-midi ou sur rendez-vous le matin s'il y a des gens qui peuvent pas venir les après-midi. Et c'est du mercredi au dimanche inclus que ça sera ouvert donc du 8 au 13 septembre, du 8 juillet au 13 septembre, voilà.
Numéro de téléphone peut-être pour...
Alors mon numéro de téléphone fixe, le portable c'est pas mon truc.
On peut passer par là donc pour...
Pour m'appeler, alors 05,
je note avec vous.
58,
ouais.
76,
01,
39.
Pour la visite de l'atelier de Michel Arrosier à partir du 8 juillet. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, Michel Rosier, sur tout ça, sinon que d'inviter toutes celles et ceux qui nous écoutent de profiter de cet été que l'on sent un peu peut-être régional revenir vers vous.
On le voit bien quand on va, mettons, mettre des affiches ou des flyers dans les offices de tourisme, ils sont très preneurs parce qu'en réalité, tout est arrêté.
Mais oui.
Tout est arrêté. Et comme je dis dans le flyer, vous êtes les bienvenus à bonne distance. Pas masqué, parce qu'on ne va pas exagérer non plus, mais le respect, bon voilà, de venir et respecter les uns les autres. Mmh. Faites attention, mais je ferai attention à ça. Sinon, je donne des coups de marteau sur l'enclume.
Hein. Voilà, prévenu, très chers amis. On se ferait un plaisir de faire écho tout au long de cet été, de rappeler
bien sûr.
Régulièrement
bien sûr.
La possibilité de venir vous voir donc à Manteau dans votre atelier. Petite page Facebook, pour le côté communication.
Voilà, moi je suis sur Facebook, ouais. Michel Rosier, voilà. R-O-Z, il faut pas mettre un S, parce que sinon ils vont pas me trouver, les gens, R-O-Z. Et puis, il y a pas de souci, quoi, je communique. Et les gens pourront comme ça me parler directement.
Tout à fait, mais le mieux c'est quand même de venir cet été du côté de mon corps, à votre visite et dans votre atelier. Merci beaucoup, Michel. Non, je le refais. Merci beaucoup, parce que merci, ça n'existe pas. Merci beaucoup, Michel Rosier.
Merci.
Et encore un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de Radio MDM. On se croise à Manteau. Moi, je suis en train d'organiser mon été. Je vais rester régional. Je vais y aller tous azimuts, quoi.
Avec plaisir.
Adichat, Michel Rosier, merci.
Merci.